France Inter.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info la télé et en partenariat avec le journal Le Monde. Frappez fort et frappez vite, une semaine après son investiture, Donald Trump ne nous a pas vraiment surpris. Avec ses mises en scène spectaculaires, ses coups de menton et sa conception binaire du monde, on est avec ou contre les Américains. Sans surprise en tout cas, l'Europe s'est montrée atone pendant cette semaine, pour ne pas dire aphone, même quand le nouveau président américain a commencé a annoncé la couleur sur les futures taxes douanières et quand il s'est assis définitivement sur nos accords de Paris. En France, le Rassemblement national regarde, voire applaudit, voit-il en Donald Trump, nationaliste, capitaliste et autoritaire, un modèle à suivre. On en parle avec notre invité, Fabrice Leggeri, député européen du Rassemblement national, ancien patron de l'agence Frontex, chargé de la surveillance des frontières européennes. Il est dans Questions politiques, en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Karine Bécart sur France Inter.
Bonjour Fabrice Leggeri.
Bonjour.
Avec moi pour vous interviewer, Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et tous.
Et nous accueillons Alix Bouillaguet de France Télévisions. Bienvenue Alix.
Merci beaucoup. Bonjour Karine.
On commence comme toujours avec nos images de la semaine, ce qui vous a marqué en particulier dans l'actualité. Fabrice Leggeri, je me tourne vers vous pour commencer. Quelle est la photo qui vous a frappé, vous, cette semaine ?
Alors, c'est la photo de prise de fonction du président Donald Trump qui signe des décrets présidentiels. Et je pense que c'est un acte qui montre la volonté d'agir immédiatement. Et je pense que c'est aussi une manière peut-être de mener une vie, une action politique plus transparente. C'est public. Bon, il y a peut-être un côté mise en scène que des téléspectateurs français ou européens peuvent trouver inhabituel. Donc il y a un côté de transparence dans l'action. Il y a aussi une espèce d'engagement vis-à-vis des électeurs. Et une volonté absolument débridée d'agir. Mais finalement, c'est ce que l'on attend des responsables politiques une fois qu'ils sont élus, c'est de mettre en œuvre ce qu'ils ont promis pendant la campagne. Et alors, c'est pour cette raison que j'ai choisi cette image.
Voilà, on ne sait pas encore s'il va agir, mais en tout cas, il met en scène sa possible future action. Grande démonstration en termes de communication. Mais lors de cette même cérémonie d'investiture, il y a une autre image qui n'est pas passée non plus inaperçue. On va la voir s'afficher d'ailleurs juste derrière vous sur l'écran. C'est Elon Musk, proche parmi les proches du nouveau président américain. Il est le nouveau ministre chargé de l'efficacité gouvernementale. Et quand il est monté sur scène, lundi, il rejoint le pupitre pour s'exprimer, évidemment. Et à deux reprises, il fait un salut nazi qu'on découvre donc derrière vous, encore une fois, sur l'écran. Comment vous avez réagi, Fabrice Leggeri, quand vous avez découvert cette image ?
Alors, je pense que si on montrait la vidéo en mouvement, c'est, me semble-t-il, le salut qu'on appelle le salut de bel ami. Rien
alors,
à voir avec un homme politique
c'est
français.
C'est quoi un salut bel ami ?
C'est un salut qui est lié à l'histoire de l'indépendance des États-Unis, donc des Américains. Donc c'est, d'après mes informations, quelque chose qui a plus de deux siècles. Donc si on voit la vidéo et non pas simplement une photo statique, c'est ce salut de bel ami qu'en tout cas j'ai pu...
Vous avez pensé tout de suite au salut bel ami, vous n'êtes pas dit il y a une confusion et ça pourrait peut-être être quand même un salut nazi, ça ne vous a pas dérangé, vous n'avez pas été choqué?
Non, j'ai été intrigué et je suis allé regarder un petit peu dans l'histoire des États-Unis si ça pouvait correspondre à quelque chose.
Est-ce que le rôle de Musk dans la campagne de Donald Trump et maintenant dans le dispositif de Trump vous gêne ou vous trouvez ça normal?
Bah écoutez, Elon Musk, bon maintenant on va avoir des fonctions officielles pour aider à réformer l'État fédéral américain, à le rendre plus efficace. Je crois que c'est ça le portefeuille.
Parallèlement, il a toute une activité sur les réseaux sociaux de.
Et parallèlement, il a une activité sur les réseaux sociaux d'influenceurs, mais aussi de liberté d'expression. Et je crois qu'il y a entre les États-Unis et de manière générale l'Europe, peut-être des conceptions différentes
de ce qu'est la liberté d'expression. Je rappellerai que la liberté d'expression fait partie du premier amendement de la Constitution des États-Unis. Et si on remonte encore plus loin, il y a 5 siècles, à ce qui a poussé les fondateurs un petit peu des États-Unis, enfin des colonies de la côte est des États-Unis, les Pilgrim's Fathers, comme on les appelait, qui sont partis d'Angleterre, c'était au nom de la liberté. Alors à l'époque, c'était la liberté de la foi, la liberté d'expression.
Et mais on ne va pas refaire toute l'histoire des États-Unis, mais la liberté d'expression, pardonnez-moi,
c'est un
peu la même pour tout le monde quand même.
Le vieux monde européen.
Volonté d'influencer politiquement, de s'ingérer
On va venir plus proche de nous, on va venir en 2024, effectivement, du côté européen de l'Atlantique, avec l'interprétation qui est faite par la Commission européenne du DSA, donc le Digital Service Act, qui est la législation européenne pour réguler
le numérique.
Le numérique. Et on a eu déjà un avant-goût de cela cet été, lorsque Thierry Breton, alors qu'il était encore commissaire européen, avait voulu interdire la diffusion en Europe du débat entre Elon Musk et Donald Trump. Bon. Et on a encore entendu des déclarations de Thierry Breton il y a peu, qui disait on a fait annuler les élections en Roumanie, et s'il le faut, on fera annuler les élections en Allemagne. Donc vous avez quand même des déclarations. Je sais bien que Thierry Breton n'a pas été renouvelé dans son portefeuille de commissaire européen, mais on a néanmoins la Commission européenne qui aujourd'hui ne retient de ce DSA, donc de cette législation européenne sur le numérique, ne retient qu'une interprétation préjudiciable à la liberté d'expression, alors qu'en réalité, cette législation européenne doit servir à protéger les consommateurs. Donc vous avez
Mais vous n'avez pas répondu sur le fond. Ça vous choque pas, vous, que Musk essaye d'intervenir dans les affaires politiques européennes en soutenant notamment certains partis.
Non, mais ça va même plus loin que ça. Je poursuis la question de Françoise, qui est évidemment la question qu'on a envie de vous poser. Mais hier après-midi, Elon Musk intervient en plein meeting de l'extrême droite d'Alternative für Deutschland, qui est le parti d'extrême droite en Allemagne. Il y a ingérence là, ou il y a simplement liberté d'expression, mais très simplement et très rapidement.
Barack Obama était intervenu dans la campagne présidentielle française en disant qu'il fallait voter contre Marine Le Pen. Donc je crois que de toute façon, dans un monde globalisé, dans un monde où la communication circule, où les moyens technologiques pour se faire existent, il vaut mieux considérer que, dès lors qu'un élément n'est pas un crime ou un délit, c'est-à-dire que, et c'est là-dessus que la législation numérique européenne peut être utile si elle permet de combattre des appels à commettre des crimes ou des délits ou du terrorisme. Il y a toute une dimension protection des consommateurs par rapport à la publicité, aux aspects commerciaux. Tout ça, c'est dans le DSA, dans la législation européenne. Mais là, on arrive à une interprétation par la Commission européenne de Madame von der Leyen, qui est de brider
la liberté d'expression. Elle est pas, pour l'instant, l'enquête est relancée. Juste, je vous parais quand même, je vous trouve très serein sur cette interprétation de la liberté d'expression, mais juste une question très française. Si jamais Elon Musk soutient en 2027 Éric Zemmour, qui est un opposant politique à Marine Le Pen, et qu'il va même plus loin d'ailleurs, Elon Musk, en disant par exemple que Marine Le Pen n'a pas le niveau pour entrer à l'Élysée, vous considérez toujours que c'est la liberté d'expression ou pas ?
Écoutez, il y a toujours une liberté pour les détracteurs, et je crois que c'est ça le jeu de la démocratie, mais nous, au Rassemblement National, nous allons convaincre les Français, et je crois que les résultats électoraux de l'année 2024 montrent que les Français font de plus en plus confiance au Rassemblement National, à Marine Le Pen qui se destine à l'élection présidentielle, et à Jordan Bardella qui se destine à être Premier ministre.
Alix Bouyaguet.
Et la liberté d'expression, ça va jusqu'à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de vérificateurs de l'info sur les réseaux sociaux. Ça se passe dans le naturellement sur X, ça se passe aussi sur Meta, le groupe de Mark Zuckerberg. Donc, fausse information, des algorithmes qui sont truqués pour qu'on tombe en permanence sur des tweets. Moi, je suis pas abonné à Elon Musk, mais je pense que j'en reçois à peu près 6 ou 7 par jour. Est-ce que ça, c'est la liberté d'expression ?
Ben, Il y a eu un changement, par exemple, Mark Zuckerberg a annoncé effectivement il y a quelques jours qu'il allait remplacer la vérification des faits par des notes de communauté. Donc ce sont des utilisateurs des réseaux sociaux qui vont intervenir pour apporter un commentaire sur certains faits. Vous savez, je crois que de toute façon, dans tout système, il y a un besoin de savoir qui est le vérificateur. Parce que si vous avez des vérificateurs des faits, les fact-checkers, comme ils disent en anglais, qui se cache derrière ces fact-checkers ? Vous voyez, finalement, c'est toujours repousser la limite de dire, mais finalement, qui est-ce qu'il y a vraiment une neutralité, une indépendance ? Donc voilà, il y a un système de notes de communauté. On verra comment ça fonctionne.
Tout est équivalent. Ouais,
exactement.
Je n'ai pas dit que tout est équivalent à tout. J'ai bien précisé.
Non, mais les fautes d'information, c'est quelque chose qui existe.
Lorsqu'il y a des appels à commettre des crimes ou des délits, lorsqu'il y a des expressions, des choses qui sont dites et qui sont des crimes ou des délits, là, c'est pas tout n'est pas équivalent, absolument. Après, je crois aussi que ça pose une vraie question sur la transmission de l'information. Ça pose aussi une question sur le rôle des médias traditionnels. Vous êtes des journalistes, vous avez un métier qui n'est pas le métier du premier venu. Donc vous avez aussi, je pense, comme journaliste de différents services. Bon, ici nous sommes sur le service public. Il y a d'autres qui sont des journaux, des médias privés. Je pense qu'il faut aussi se dire que il n'y a pas que les réseaux sociaux comme source d'information, même si pour les plus jeunes d'entre nous, je crois que les moins de 20 ans ne s'informent que sur les réseaux sociaux, effectivement. Mais donc c'est aussi le rôle des médias. Ça peut être pour certaines choses le rôle de l'école, de l'éducation, et parfois aussi le rôle des familles vis-à-vis des plus jeunes.
Ce qui a été très frappant aussi dans l'investiture de Donald Trump, c'est de voir ces milliardaires de la Silicon Valley qui étaient en collusion avec le pouvoir, et ça rappelait un peu les oligarques russes, les oligarques chinois. Est-ce qu'on est dans cette ère où, au fond, on n'est pas du tout dans la démocratie, mais dans une autocratie ? Est-ce que ça vous interpelle, ça ?
D'abord, nous sommes en France et j'espère que nous y resterons, et nous sommes en Europe, puisque vous avez rappelé que je suis député européen. Donc, il y a la manière dont s'organisent les États-Unis ont une autre tradition politique, ont pu développer depuis deux siècles d'autres traditions politiques que les nôtres.
Vous n'avez pas répondu au fond à la question. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose l'arrivée de Trump pour les États-Unis et le monde entier, ou est-ce que il y a...
Mais ça, on va avoir l'occasion d'en parler quand même largement dans l'interview, Françoise.
Des soucis,
si vous me permettez.
Alors peut-être.
Répondez très rapidement parce qu'on va largement en parler.
Donald Trump a été élu pour défendre les intérêts des Américains. C'est l'Amérique d'abord. Donc le souci, c'est qu'effectivement, il n'est pas là pour défendre ni les intérêts des Français, ni même les intérêts des Européens.
Voilà. Allez, autre image de la semaine, il faut avancer, qui également a fait beaucoup parler, la vôtre, Alix Bouyaguet. Elle concerne le président Macron cette fois, dites-nous.
Oui, c'est une image, on le voit, on voit le compte TikTok d'Emmanuel Macron, une interpellation qu'il a faite ce week-end. Alors, il y a deux passages dans ces messages qu'il a postés sur TikTok. D'une part, il répond à un influenceur au pédigré quand même plus que discutable sur une histoire de paiement par carte de crédit au péage. Et puis, il y a une deuxième interpellation, cette fois-ci, pour dénoncer les coupes du budget dans les sports. Alors, c'est vrai que cette séquence, elle est assez étonnante parce que, d'une part, sur le premier sujet, il s'exprime quand même sur quelque chose qui est assez mineur.
Pour un président de la République.
Exactement, pour un président de la République. Donc, on se demande un petit peu pourquoi il fait ça, pourquoi il intervient dans ce débat qui n'en est pas un. Et puis, il y a la deuxième séquence où là, on peut se dire qu'il peut gêner éventuellement François Bayrou. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà d'entendre ce que dit l'Élysée. Donc, l'Élysée dit, c'est le nouveau rôle du président de la République, qui doit être désormais un lanceur d'alerte, un émetteur, qui doit être une sorte de chambre d'appel. Mais en réalité, c'est vrai que cette séquence-là, elle traduit quoi ? Eh bien, sa volonté d'exister à tout prix. Il a mal vécu la séquence Barnier dernier de cohabitation avec Bayrou qui a les manettes. Bien, c'est aussi une séquence où il a tendance quand même à disparaître. Il veut garder ce lien avec les Français, voire essayer de les reconquérir. Mais c'est vrai que cette séquence est assez contre-productive parce qu'on voit quoi ? On voit un président peut-être un peu démonétisé et puis surtout un président isolé.
Alors, je vois Fabrice Leggeri en train de s'agiter. Vous répondez vite, hein,
oui,
parce qu'il faut qu'on avance.
Je suis d'accord avec ce que commente Alix Bouyaguet. Mmh. Je rajouterais simplement que, de surcroît, il est malheureux que le président Macron réagisse vis-à-vis d'un influenceur algérien quand on sait ce qui s'est passé avec des influenceurs algériens et les tensions entre la France et l'Algérie.
Là, vous faites un petit peu d'amalgame. Et puis, je rappelle quand même juste que vous avez un champion de TikTok dans vos rangs, c'est le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui est tout le temps dessus aussi.
Mais nous en faisons un bon usage.
Bon, alors on termine avec votre image, Françoise, la dernière image des députés PS qui ont tout fait pour montrer leur utilité cette semaine à l'Assemblée.
Oui, alors c'était jeudi et ça se passe à l'Assemblée nationale dans le cadre de ce qu'on appelle les niches parlementaires, c'est-à-dire c'est une journée où l'initiative vient non pas du gouvernement mais des députés. Et là, c'est un festival pour le Parti Socialiste, ils présentent 5 textes et les 5 textes sont adoptés, alors que d'habitude, la tactique du pouvoir, c'est plutôt soit de faire en sorte que la discussion s'enlise, soit de voter contre. Là, les 5 textes sont adoptés et c'est 5 textes intéressants parce qu'ils portent sur la vie quotidienne des Français, sur essayer d'améliorer leur ordinaire, et notamment, vous avez les repas à 1 € dans les restaurants universitaires, et puis l'idée aussi qu'à l'hôpital, il faut qu'il y ait un certain nombre de soignants par patient pour assurer à la fois le confort des soignants et le confort des patients. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'où vient cette lune de miel ? Eh bien, c'est que le Parti Socialiste est en fait devenu le groupe charnière aujourd'hui, au moment où le gouvernement essaye d'avoir des majorités sur son budget. Donc, c'est la lune de miel entre le gouvernement et les socialistes. Et du côté des socialistes, c'est aussi l'idée qu'il faut montrer que le compromis est utile aux Français, par rapport à la France insoumise, qui est toujours dans l'idée de censurer. Et tout ça se fait alors que le gros sujet, c'est que vont faire les socialistes sur le projet de loi de finances pour 2025. On aura la réponse la semaine prochaine, mais on voit bien qu'il y a quand même une tentative de dire le compromis, ça marche, et on a des victoires.
Les Américains restent nos alliés, mais ils vont défendre encore plus leurs intérêts et mettre en place ce qui avait déjà en réalité commencé avec l'administration précédente, c'est-à-dire un désengagement aussi des Américains un peu partout sur tous les continents, notamment en Europe. Je pense notamment au sujet de la défense. Les Européens doivent rester unis. C'est peut-être le message principal aujourd'hui qu'il faut passer aux chefs d'État et de gouvernement.
Voilà, Stéphane Séjourné, le commissaire européen français, vice-président exécutif de la Commission européenne. C'est un proche d'Emmanuel Macron et il a profité d'être l'invité de la matinale de France Inter lundi, avant donc l'investiture officielle de Donald Trump, pour demander à l'Europe, aux 27 pays membres de l'Union européenne, de rester unis, comme il vient de le dire. Qu'est-ce que vous répondez à Stéphane Séjourné, Fabrice Leggeri, quelle doit être l'attitude de l'Europe ? Est-ce qu'elle doit se montrer effectivement très unie, très soudée face aux États-Unis ?
Je crois que ce que révèle la déclaration de M. Séjourné, c'est qu'il semble découvrir, comme beaucoup d'autres dirigeants européens, que oui, des dirigeants élus sont là pour défendre les intérêts de leur peuple. Il y a une espèce de découverte ou redécouverte, eh bien, que ce que l'on attendrait de dirigeants européens, et ça vaut donc pour la Commission européenne, puisque M. Séjourné est vice-président exécutif de la Commission, qu'ils prennent vraiment la défense des intérêts des Européens. Et en fait, ce que nous montre l'élection de Donald Trump et son slogan, l'Amérique d'abord, eh bien, c'est que il ne va défendre effectivement en premier lieu que ce qui est bon pour les États-Unis, pour les Américains, pour l'économie américaine.
Et donc l'Europe doit faire la même chose.
Et nous, les Européens, nous sommes un peu faibles, un peu, je dirais, dans des illusions, notamment qui provoquent en réalité la décroissance économique. Je rappellerai juste, on pourra en reparler, mais le rapport Draghi qui a été publié il y a quelques semaines. Donc, Monsieur Draghi est quand même l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. On peut pas le suspecter d'être souverainiste, anti-européen, etc. Bon, il nous dit que depuis une grosse décennie, l'Europe a décroché économiquement par rapport notamment aux États-Unis parce qu'il y a un manque d'innovation en Europe. Et l'une des causes importantes, on le sait, c'est l'excès de bureaucratie, l'excès de normes tatillonnes sur tout un tas de sujets. Et si vous prenez le pacte vert, le fameux Green Deal de von der Leyen, qui a été voté par les macronistes, par la droite, par les verts, la gauche, etc., eh bien, ça tue la capacité de développement économique de l'Europe.
Mais on va vous mélangez plein de choses et du coup vous répondez pas clairement à la question. La question c'est est-ce que l'Union européenne va avoir la capacité de rester unie, de rester soudée quand on sait que certains dirigeants européens se montrent très proches par exemple de Donald Trump. Mais donc elle va imploser cette Europe, il faut tout faire pour que ça soit pas le cas, ça sera
quel camp
vous allez choisir.
C'est un défi, il faut que l'Europe soit forte pour défendre les intérêts des Européens.
Mais est-ce qu'elle doit rester unie? Est-ce que vous dites qu'il faut qu'elle soit forte, mais au fond le parti auquel vous appartenez a toujours plaidé pour une autre Europe, qui a toujours contesté la construction européenne telle qu'elle est faite. Donc Vous, par rapport à l'élection de Trump, vous dites il faut qu'on s'unisse, il faut tous aller derrière le rapport Draghi. Draghi, il dit pas seulement la débureaucratisation, il dit il faut des financements communs pour financer l'innovation. Vous êtes là-dessus, vous ?
Alors là-dessus, pour terminer sur le rapport Draghi, nous partageons le diagnostic, nous ne partageons pas les préconisation du rapport Draghi, parce que ça veut dire encore plus de dettes. On ne sait pas où on va trouver cet argent. Il y a une fuite en avant de la dette, maintenant, du budget de l'Union européenne. Et j'assistais il y a quelques jours à l'Assemblée nationale française, donc à la Commission des affaires européennes, à une présentation par la Cour des comptes européenne qui s'inquiète d'une fuite en avant, maintenant, de dettes du budget de l'Union européenne. Mais pour revenir à votre question sur l'Europe, doit-elle être unie? Si l'Europe agit, permet à ses nations de coopérer entre elles, et si on a une Commission européenne qui fait son travail, c'est-à-dire qui aide les États à coopérer entre eux dans l'intérêt des Européens, c'est une voie qui paraît intéressante. La position du Rassemblement national, c'est d'améliorer l'Union européenne. C'est pas de
Mais ça veut dire que l'Union européenne reste une union? Ça veut dire que vous voulez une autre forme juridique? J'ai du mal à saisir en fait où vous nous emmenez.
Pour le moment, ce qu'il faut, c'est déjà à texte existant, dans le cadre qui existe, parce qu'il faut réagir rapidement. Là, Donald Trump, il commence à signer des décisions...
Des dizaines et des dizaines de décrets,
dizaines
ça va très
des
vite.
Des dizaines de décrets. Donc, il faut que nos dirigeants européens, mais les dirigeants des États de l'Union européenne et les responsables européens à Bruxelles, dont M. Séjourné, puisqu'il est vice-président exécutif de la Commission, mais je pense aussi à Mme von der Leyen, il faut qu'ils défendent les intérêts de l'Europe. Et l'intérêt de l'Europe, c'est quoi? C'est de pouvoir développer l'économie européenne pour qu'on ne se retrouve pas relégué en décroissance. Il faut défendre les intérêts de nos agriculteurs. Là, nous sommes français, donc nous sommes un peu plus peut-être sensibles à cela. Je parle notamment du Mercosur. Enfin, il faut en tout cas qu'on défende nos intérêts, notre développement économique, notre souveraineté vis-à-vis d'autres grands blocs du reste du monde. Il y a la Chine, qui inonde notre marché européen de voitures électriques. Bon, il y a les États-Unis qui vont être dans le protectionnisme probablement en relevant les droits de douane face à la Chine. Les États-Unis, d'une certaine manière, vont inciter la Chine à réorienter ses exportations encore davantage vers l'Europe.
Et justement, parlons de cette guerre commerciale. Question d'Alix Bouyallet.
Donc, si je comprends bien, si je résume votre pensée, vous dites qu'il faut hausser le ton face à Donald Trump. Ça veut dire quoi de manière très concrète sur justement les échanges commerciaux? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont relever, en tout cas c'est ce qu'il souhaite Donald Trump, relever les droits de douane pour les exportations? Est-ce que vous dites c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, nous aussi on va le faire sur certains produits américains?
Mais je crois qu'il faut en fait hausser le ton vis-à-vis de tous les compétiteurs internationaux. Il y a la Chine également, il faut hausser le ton vis-à-vis de la Chine.
Mais sur les Américains, sur ce que dit, est-ce que c'est, encore une fois, vous relevez vos droits de douane sur nos produits, nous allons relever nous aussi les droits de douane sur vos produits?
Des mêmes montants, voire même plus. C'est-à-dire, quelle est vraiment la stratégie commerciale qu'il faut qu'on ait vis-à-vis des États-Unis?
Il faut en tout cas... Alors, il y a une stratégie commerciale, c'est un aspect. Il y a peut-être d'autres aspects de la relation transatlantique aussi dans le domaine de l'armement, notamment du commerce des armes et des équipements d'armement. Enfin, c'est pas la seule dimension.
Sur l'armement, pardonnez-moi, je vous coupe. Vous voulez faire comme Christine Lagarde, la patronne de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui dit finalement, on pourrait peut-être essayer de passer un deal avec les États-Unis, continuer à acheter leur armement américain de manière à ce qu'ils soient plus sympas avec nous sur les droits de douane? C'est ça que vous dites?
Nous sommes pour une préférence européenne, Jordan Bardella le dit, le répète souvent, une préférence européenne dans les marchés publics d'armement. Donc vous voyez qu'il y a, plusieurs éléments, je dirais, dans la relation transatlantique. Il y a l'aspect commercial hors armement, il y a l'aspect armement, il y a peut-être aussi des problématiques plus stratégiques et géopolitiques. Et par rapport à tout cela, ce qu'il nous faut, ce sont des dirigeants européens qui osent s'assumer. En fait, c'est d'abord une attitude. Et j'ai choisi cette image de Donald Trump signant ses décrets présidentiels parce qu'il met en scène le pouvoir et l'action sans se cacher.
Sauf que beaucoup vont être bloqués. On sait par exemple, le dernier, la remise en cause du droit du sol, ça a été aussitôt suspendu par un juge fédéral. Donc, c'est un programme versus la réalité. Et la réalité, elle n'est pas binaire.
C'est ce que vous avez dit, c'est de la mise en scène.
Après,
en fait.
Non, c'est-à-dire qu'après, il y a des jeux de contre-pouvoir. C'est normal dans une démocratie. Donald Trump a été élu par le peuple. Il y a des contre-pouvoirs, il y a une constitution. Ça me paraît tout à fait normal. Mais je pense que ce que vraiment il faut attendre des dirigeants européens, c'est qu'ils ne soient pas complexés de dire oui, nous voulons défendre d'abord nos intérêts. Et je crois que c'est cette attitude, c'est une révolution culturelle, de culture politique, après qui peut se décliner dans tout un tas de politiques commerciales, de politiques publiques, mais c'est d'abord ce sursaut de dire oui, nous sommes fiers, nous défendons nos intérêts.
Alors là où vous suivez en revanche de très près Donald Trump, c'est qu'il a mis fin au Green New Deal de Joe Biden, et immédiatement après, dans la foulée, Jordan Bardella, le président du parti Rassemblement National, a demandé la suspension du Green Deal européen. Donc là, par contre, vous êtes en phase avec les États-Unis et surtout, vous dites la planète, c'est plus notre souci.
Non. Alors, d'abord, pendant toute la campagne électorale des européennes, le Rassemblement national et évidemment Jordan Bardella en premier lieu, a toujours dit que il fallait combattre les excès de ce pacte vert et que entre une écologie raisonnable et un sentier de croissance économique, voilà, il y a entre l'écologie et l'économie une possibilité de trouver un chemin. Rappeler que l'Union européenne est déjà aujourd'hui le continent, en tout cas l'ensemble politique le plus vertueux du point de vue environnemental. Les émissions de carbone, par exemple, de CO2 de l'Union européenne représentent à peu près 6% des émissions mondiales. Donc, par exemple, il y a tout un tas de mesures du pacte vert. Je pense notamment à ce qui est en train de tuer l'industrie automobile européenne. Les Allemands sont en train de se réveiller lorsqu'ils voient que Mercedes fait des pertes et que voit son chiffre d'affaires reculer de plus de 35%. Donc on voit bien la difficulté lorsqu'on dit qu'on va interdire le moteur thermique et qu'on sera dans le tout électrique. On ne dit même pas des voitures hybrides en 2035. C'est tout électrique. Mmh. Bon, c'est dans 10 ans. Eh bien ça, c'est un exemple qui tue notre industrie, parce que au-delà du moteur thermique, qui était un domaine d'excellence des industries européennes depuis très longtemps. Donc ça, maintenant, c'est sacrifié pour le moment, sauf si on revient à l'arrière.
Donc c'était cela, c'est pas bien, vous êtes pas mesque là. Vous...
Si on a, encore une fois, défendons nos intérêts. Nous sommes européens, nous sommes français.
Non mais c'est pour qu'on essaie de voir que se dessine effectivement votre profil.
Pour nous, c'est l'intérêt de la France et des Français. Mmh. Et à l'intérieur d'une Europe qui doit être forte, c'est défendre les Français à l'intérieur de l'Europe, mais défendre les intérêts des Européens, préférence européenne, a dit Jordan Bardella sur les marchés d'armement, eh bien, nous défendre nos intérêts par rapport au reste du monde.
Est-ce que c'est l'intérêt de la France et des Français de sortir des accords de Paris sur le climat? Parce que c'est ce que va faire Trump, pour le coup. Est-ce que là, vous dites, oui, nous aussi, on pourrait sortir?
Nous n'avons pas évoqué cette question-là. Il s'agit simplement de suspendre ce qu'a demandé Jordan Bardella il y a quelques jours. C'est de suspendre l'application du pacte vert, le fameux Green Deal de Madame von der Leyen, pour aussi faire un inventaire et faire le tri, parce qu'il y a tout un tas de mesures derrière ce pacte vert. Vous avez des dizaines et des dizaines de textes, donc il faut voir ce qui peut, n'est pas nocif, et ce qui, en revanche, doit être suspendu dans l'intérêt de nos agriculteurs, parce que je rappelle quand même qu'il y a une crise agricole en France, mais aussi en Europe, depuis un an maintenant, et une partie de la détresse du monde agricole français, mais parfois européen aussi, c'est qu'il y a des mesures mesures de décroissance. Des mesures de décroissance agricole qui peuvent avoir un impact sur la dépendance alimentaire. On est en train de risquer de faire en sorte que les Européens soient dans une situation de dépendance alimentaire et que nous soyons obligés d'importer des marchandises du reste du monde, des marchandises qui sont produites selon des normes environnementales catastrophiques, bien moins exigeantes que les nôtres, et des normes sanitaires. Vous voyez, suspendre le pacte vert, c'est pour faire un inventaire et pour permettre de souffler et de voir faire le tri pour défendre l'intérêt bien compris des Français et des Européens.
Françoise.
Vous êtes député européen, il y a un impact assez direct entre l'élection de Donald Trump et ce qui se passe au sein des extrêmes droites européennes. On voit qu'il est plutôt proche de Mélanie, plutôt proche de Zemmour. Est-ce que ça vous pousse à réfléchir à une réorganisation de l'extrême droite? Est-ce que vous avez plutôt envie de vous rapprocher de Mélanie ou de dire non, on sera plutôt en compétition avec elle? Comment vous voyez les choses par rapport à l'impact au Parlement européen et à la façon de compter?
Alors, vu du Parlement européen, effectivement, je siège depuis le mois de juillet. D'abord, le groupe des Patriotes pour l'Europe.
Votre groupe?
Mon groupe, donc le groupe du Rassemblement National, est le troisième groupe, par sa taille, au Parlement européen. Le groupe des Européens conservateurs et réformistes de Mme Mélanie est le quatrième groupe par sa taille. Et il y a un autre groupe, qui est huitième par sa taille, qui est le groupe des nations souveraines d'Europe, dans lequel siège notamment Madame Knafou, donc pour Monsieur Zemmour.
Reconquête.
Donc vous voyez qu'il y a.
Mais là vous avez parlé de Mélanie, vous avez parlé de Zemmour et de Reconquête.
Mais nous sommes.
Ils parlent directement aux États-Unis et à Trump, vous avez une.
Nous avons alors
distance, si on vous entend bien aujourd'hui.
Lors de l'investiture de Donald Trump la semaine dernière, une délégation du Rassemblement National a été invitée, a été conduite par Louis Alliot, le maire de Perpignan
et le maire de Beaucaire, Julien Sanchez.
Oui, qui est venu également.
Ils étaient plutôt au fond, quoi. Ils étaient très loin. C'était pas le chef du parti.
Patrice Thierry, tout le monde sait que Marine Le Pen n'a aucun lien direct avec Donald Trump.
Mais nous sommes encore une fois, nous sommes en dialogue avec
avec qui?
Avec les Républicains. Ça a été l'occasion d'avoir des contacts avec les Républicains. Mais encore une fois, il ne s'agit pas non plus d'organiser une espèce de cirque ambulant, d'aller à Washington.
Mais c'est le président des États-Unis quand même. C'est étrange de voir que le RN, ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella n'ont de lien direct établi avec le président américain.
Écoutez, lorsque nous serons aux responsabilités en France, évidemment, qu'il y aura à avoir des relations diplomatiques, des relations internationales, mais nous étions présents à la cérémonie d'investiture, les collègues du Rassemblement National qui étaient à Washington, et aussi les collègues du groupe des Patriotes pour l'Europe, parce que le groupe des Patriotes pour l'Europe était représenté aussi par la première vice-présidente, donc qui est hongroise, Madame Kinga Gál, donc qui est numéro 2 de Jordan Bardella au niveau de notre groupe des Patriotes pour l'Europe au Parlement européen. Donc nous étions évidemment partie prenante à des discussions politiques,
mais Françoise a raison de vous poser la question de savoir comment va se réorganiser l'extrême droite européenne.
Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux pour vous garder de la distance ou est-ce que vous pensez que pour rentrer dans le jeu et peut-être essayer de concurrencer Mélanie, qui va essayer d'obtenir des choses pour l'Italie, vous avez intérêt à vous rapprocher de Trump?
Alors sur beaucoup de sujets, nous votons dans un sens tout à fait identique que le groupe des conservateurs et réformistes européens, donc de Madame Mélanie, sur les questions d'immigration, sur les questions de pacte vert. Donc en réalité, bien souvent, nos voix, sur beaucoup de sujets, nos voix s'additionnent et ça pose plutôt un problème. Moi, je pense qu'il faut poser la question à la droite, entre guillemets, la droite classique, la droite molle, si vous voulez, du Parti populaire européen, à laquelle appartiennent les Républicains français, qui sont parfois un peu en train de nager entre deux eaux, qui nous disent qu'ils sont contre l'écologie punitive, mais qui soutiennent quand même Madame von der Leyen. Et donc, sur beaucoup de sujets, juste un exemple, un amendement au budget de l'Union européenne a été voté sur quelque chose qui était un tabou. C'est la possibilité de financer des clôtures et des constructions tout autour de l'Europe, à la frontière extérieure de l'Union européenne. C'était un amendement, nous avions proposé le nôtre, le groupe de Mme Meloni avait le sien, et le nouveau groupe auquel appartient l'AFD allemande, et Mme Knafo d'ailleurs, qui est avec l'AFD allemande, ils ont proposé également. Et l'un de ces trois amendements a été, puisqu'il y a un ordre chronologique d'examen, surprise générale, cet amendement a été voté. Ça veut dire que dans le Parlement européen, en session plénière, il y a eu une majorité, donc il y a eu tout notre groupe des Patriotes pour l'Europe qui a voté pour, il y a tout le groupe de Madame Meloni qui a voté pour, il y a évidemment tout le groupe des nations européennes souveraines qui a voté pour, mais normalement ça ne suffit pas à faire adopter un amendement, ça veut dire qu'il y a certes des non-inscrits, mais il y a surtout des députés du PPE qui ont voté pour cet amendement. Donc vous voyez, la recomposition, moi je la vois plutôt comme ça. Il y a des voix convergentes, il peut y avoir des complémentarités, il peut y avoir des nuances sur certains sujets. Il y a un espace qui permet de parler à tout le monde. Je rappellerai quand même que l'Europe est
à tout le monde, mais vous
diverse.
Ne parlez pas à tout le monde. Je reviens sur l'AFD, je reviens sur le parti d'extrême droite allemand. C'est quoi les relations aujourd'hui entre le Rassemblement National et Alternative für Deutschland? Vous êtes fâché normalement.
Alors, effectivement.
Je rappelle que l'AFD avait parlé de remigration et que ça avait fortement déplu et fâché donc la patronne du Rassemblement National,
puis,
Marine Le Pen.
Aussi une déclaration d'un leader de l'AFD qui avait déclaré que les SS n'étaient pas tous des criminels, enfin quelque chose comme ça.
Et donc aujourd'hui, vous en êtes où? Vous discutez? C'est
alors,
fini?
Marine Le Pen et Jordan Bardella ont souhaité, ça c'était il y a un an, hein, donc c'était avant les élections européennes, ils ont souhaité faire exclure l'AFD du groupe qui s'appelait Exactement. Identité et démocratie à l'époque, dans lequel nous siégions ensemble au Parlement européen, et donc l'AFD a été écarté de ce groupe, et aujourd'hui, dans le nouveau Parlement européen issu des élections de juin, l'AFD est dans un autre groupe qu'elle a fondé avec d'autres partenaires.
Vous êtes encore amis ou pas? Vous êtes toujours alliés ou pas? Vous discutez?
Nous n'avons pas d'accord d'alliance, mais maintenant nous ne sommes pas sectaires, à la différence de d'autres partis politiques en France.
Donc on n'est plus dans les élections, parler de remigration, c'est plus grave.
Non. Mais nous ne sommes pas sectaires et nous pouvons... Et d'ailleurs, je réagis juste à la niche parlementaire des socialistes à Paris cette semaine. Le Rassemblement National a voté la proposition des socialistes pour diminuer le coût de la vie en Outre-mer. Donc ça montre que le RN n'est pas sectaire. Et lorsqu'on s'adresse poliment et posément, moi je peux avoir parfois des discussions avec tous les groupes politiques. Je suis coordinateur de mon groupe dans une commission parlementaire qui traite des frontières et de Schengen. Et je parle avec tous mes collègues coordinateurs de tous les groupes, avec les conservateurs et réformistes, pourquoi
l'AFD,
pas.
L'AFD, on a compris.
Mais il m'arrive aussi, parfois, d'interpeller sur certains sujets des Verts ou des représentants de Renaissance, lorsqu'il me semble qu'il y aurait un intérêt, par-delà les clivages, à pouvoir aller dans le sens, je dirais, de l'intérêt général.
Le député européen et porte-parole du Rassemblement National, Fabrice Leggeri, notre invité ce dimanche dans Questions politiques jusqu'à 13h. Je l'ai dit en introduction, vous avez été le directeur de l'agence Frontex, chargé de surveiller les frontières européennes. Vous êtes resté à la tête de Frontex 7 ans, entre 2015 et 2022, et puis vous avez préféré démissionner alors que vous étiez accusé d'avoir refoulé violemment un certain nombre de migrants. Aujourd'hui, les chiffres de l'immigration clandestine en Europe ont beaucoup chuté, moins 38% entre 2023 et 2024. Ça signifie 239 000 entrées irrégulières sur le sol européen. Ce sont les chiffres de l'agence Frontex. Comment vous les analysez ?
Eh bien, c'est en fait le résultat de la politique
de votre politique.
Non, de Madame Meloni dans les deux dernières années. Parce que quand même, j'ai quitté mes fonctions il y a deux ans, 3 ans maintenant. À l'époque où il y avait une commissaire européenne gauchiste, qui se disait social-démocrate, Madame Johansson, mais qui en fait était porte-voix des ONG immigrationnistes et qui m'avait dit le rôle des gardes-frontières, c'est de faire rentrer les migrants. Bon, aujourd'hui les temps ont changé, il y a eu les élections européennes, on en a parlé, de l'état d'esprit au Parlement européen. Il y a en Italie un gouvernement donc dirigé par Madame Meloni, auquel participent nos alliés Matteo Salvini et de la Lega. Et donc nous regardons avec beaucoup d'intérêt les succès de cette politique.
Mais c'est pas que Meloni. Il y a eu aussi beaucoup plus de moyens mis dans Frontex.
Non,
beaucoup plus d'efficacité.
Et puis juste attendez, les succès de Meloni, elle a quand même régularisé 450 000 migrants.
elle n'a pas. Non, c'est deux choses différentes. Si on veut entrer dans le détail,
ça fait partie de sa politique.
Non, c'est pas une régularisation. C'est ouvrir un programme d'immigration économique, mais c'est pas régulariser. Non. C'est pas faire ce que parfois on avait entendu, ce que les macronistes voulaient faire, c'est-à-dire il y a des gens qui sont arrivés illégalement et on les régularise. Donc c'est pas ça la politique du Meloni. C'est d'abord de faire en sorte, notamment avec la Tunisie.
Donc c'est bien une immigration économique. Vous pourriez vous dire, organisons une filière économique pour régulariser.
Nous considérons dans notre groupe des Patriotes pour l'Europe. Nous avons adopté au mois de décembre à Budapest, nous avions des journées d'études de groupe à Budapest, et nous avons adopté une déclaration commune, si vous voulez, un programme pour répondre à la question, si nous sommes majoritaires et nos idées sont majoritaires au Parlement européen, et lorsque nos électeurs nationaux nous confient la responsabilité du gouvernement chez nous à domicile, eh bien, qu'est-ce que nous faisons à la place du pacte asile-migration ? Et il y a notamment la question de restaurer le rôle de nos frontières. Donc c'est tout à fait ce que fait le gouvernement de Mme Meloni, c'est de dire qu'une frontière, elle est faite pour ne pas être violée, mais que en revanche, si des personnes sont vraiment en besoin de protection internationale, et il y en a, ces demandes d'asile, ces demandes de protection doivent pouvoir être faites avant d'atteindre le territoire européen, pour éviter que ces personnes ne soient victimes de trafiquants d'êtres humains, ne meurent en mer.
C'est sûr qu'il y a des ambassades en Libye, enfin c'est un peu compliqué quand même.
On parle pas forcément de la Libye.
Non, mais je donne un exemple au hasard.
Il y a d'autres pays avant la Libye, et il y a d'autres provenances aussi de personnes qui peuvent être en besoin de protection. Mais pour revenir à...
Mais Mélanie, c'est votre modèle, en fait, l'immigration. Les questions migratoires.
Bah écoutez, c'est davantage Mélanie que Macron. Que Macron,
que Donald Trump.
Bon, non mais
que Donald Trump.
Mais la géographie des États-Unis est différente de la géographie de l'Europe. Mmh. En tout cas, ce que nous voyons être mis en œuvre en Italie nous paraît porter ses fruits. C'est 30% de moins parce qu'il y a un discours ferme. Et sur la question de l'immigration économique, je reviens sur cette déclaration de Budapest, qui est notre programme, si vous voulez, du groupe des Patriotes pour l'Europe auquel le Rassemblement National appartient. Eh bien, nous disons qu'il est du ressort national de chaque État de l'Union européenne de décider pour lui-même s'il a besoin, oui ou non, de faire venir une immigration légale pour des raisons économiques, dans quelles conditions,
d'intégration. C'est pas très clair, c'est un peu flou. On va revenir sur ça.
Moi, je voulais repartir sur Frontex, parce que j'ai quand même lu toute la documentation sur leur bilan. C'est pas Meloni, c'est une décision des Européens de faire en sorte que Frontex ait plus de moyens et plus d'efficacité. Le pacte migratoire que vous contestez aussi, qui n'est pas encore totalement en application, qui essaye aussi d'organiser, au fond, le contrôle des demandeurs d'asile le plus près possible de la frontière pour essayer de filtrer bien davantage. Pourquoi vous lui donnez pas sa chance et pourquoi c'est jamais suffisant? On a l'impression que c'est du carburant électoral pour vous et que vous regardez pas la réalité de ce qui se fait.
Non, la réalité, c'est que ce pacte asile-migration, il part du principe que toutes les personnes en besoin de protection internationale vont devoir arriver physiquement sur le sol européen.
Oui, mais très près de la frontière avec une...
Mais non, mais une fois qu'on est malheureusement, quand on arrive par la mer ou même quand on arrive par la terre, il n'y a pas très près de la frontière. Il y a une espèce de fiction juridique de dire que s'ils n'ont pas été juridiquement admis, avoir reçu leurs papiers, ils sont dans une espèce de fiction juridique qui dit qu'ils n'ont pas été admis. Mais ils sont physiquement sous la responsabilité des pays européens. Ce qui est choquant pour nous, de ce point de vue-là, c'est que ça oblige, ça ne casse pas le modèle des trafiquants d'êtres humains, ça ne casse pas, je dirais, toute cette chaîne de détresse des personnes qui doivent se livrer à des trafiquants d'êtres humains et prendre des risques pour arriver physiquement sur le sol européen. Donc nous, ce que nous disons, c'est que quand il y a des personnes vraiment en besoin de protection internationale, il faut que ce travail puisse être fait en amont, mais pourquoi pas avec des consulats des pays de l'Union européenne, pourquoi pas avec des fonds européens. Nous demandons dans notre programme du groupe des Patriotes pour l'Europe la création d'un fonds européen de l'asile pour traiter de tout cela en dehors de l'Europe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est choquant dans le pacte asile-migration, c'est qu'on nous dit, oui, et bon, on va faire une demande d'asile express, et puis si le résultat est négatif, on va renvoyer tous ces gens chez eux. Oui. Mais nous savons déjà, nous le savons, nous le voyons, que c'est compliqué pour tout un tas de raisons, juridiques, politiques, mais tout simplement humaines aussi. C'est compliqué de renvoyer des personnes personnes.
Ça, je suis contente de vous l'entendre fois, dire, parce que le Rassemblement National, à l'écouter, il suffit de renvoyer ce dont on ne veut pas.
Notre position.
Mais l'UTF, c'est facile.
Non, mais.
Attendez, on n'ouvre pas tous les dossiers.
Si on a laissé les frontières être poreuses, on se retrouve avec, évidemment, des besoins de faire des éloignements massifs d'étrangers en situation illégale. Et notre position avec nos alliés européens, et c'est aussi la position du gouvernement de Mme Meloni, c'est de faire en sorte que ces personnes ne franchissent pas la frontière extérieure, tout en donnant un accès aux personnes qui ont légitimement un besoin de protection internationale.
Oui,
et le dernier point qui est quand même franchement
très rapidement,
c'est que la Commission européenne impose aux États membres, sous peine d'avoir des sanctions financières, le fait de prendre des migrants chez eux, donc de régulariser, de légaliser quelque chose qui est d'abord illégal.
Fabrice Leggeri, il faut quand même qu'on vienne en France. On a très peu de temps, donc question très courte et réponse très courte. La circulaire Retailleau qui vient d'être prise, qui durcit la circulaire Valls, c'est une bonne mesure ou pas ?
D'abord, je voudrais dire que c'est quand même assez cocasse. On a un ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau, et Monsieur Valls. Ils ont signé. Apparemment, Monsieur Valls était plutôt pour le laxisme à l'époque. Bon, aujourd'hui, la circulaire Retailleau rappelle qu'il faut appliquer la loi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas régulariser à tour de bras.
Ça va dans les métiers d'extrême tension.
Ça va dans le bon sens de dire qu'il ne faut pas régulariser à tour de bras, mais ça ne va pas.
Il durcit aussi. Hein.
Ça ne va pas, si vous voulez, arrêter cette pompe aspirante qui consiste à dire, à partir du moment où vous entrevoyez que quand même il peut y avoir des exceptions, vous entretenez toute une économie. Et je suis désolé, mais il y a quand même des chefs d'entreprise qui sont assez cyniques de pouvoir faire venir une main d'œuvre qui est sans papier pour faire baisser les salaires d'abord. De ces personnes qui sont en grande précarité sociale, mais aussi faire baisser les salaires de tous les Français. Donc, je pense qu'il
Donc
faut
vous n'auriez pas durci la circulaire Valls.
Si, il faut durcir, mais il faut aller au-delà. Il faut changer la loi. Il y a tout un tas d'amendements qui avaient été votés par le Rassemblement National il y a maintenant 2 ans. Et
Bruno Retailleau, pardonnez-moi, il vous inquiète. Il marche vraiment sur vos plates-bandes.
Non, il ne marche pas sur nos plates-bandes.
Au Rassemblement National, il est sur les mêmes sujets que vous.
Je crois qu'il essaie de faire entendre une voix différente dans le gouvernement, mais je pense que ça fera la démonstration de pourquoi on ne peut pas le faire tant que ce n'est pas le Rassemblement National au pouvoir.
Ça changera tout. Merci Fabrice Leggeri. L'émission n'est pas terminée, on la poursuit avec notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Karine Bécard.
Bonjour Vincent Jarousseau.
Bonjour.
Merci d'être venu sur le plateau de questions politiques. Vous êtes beaucoup de choses. Vous êtes photographe, documentariste, auteur de plusieurs BD d'actualité et vous vous intéressez depuis de nombreuses années, vous enquêtez sur les racines de la colère, sur l'illusion nationale, sur ce qui fait monter le Rassemblement National. Et vous publiez un nouveau livre, Dans les âmes et dans les urnes, 10 ans à la rencontre de la France qui vote et règne, aux éditions Les Arènes. Vincent Jarousseau, en 10 ans d'enquête, donc vous avez ausculté de très près en fait cet électorat du Rassemblement National, en 10 ans d'enquête, quels sont les changements les plus importants que vous avez observés au sein de l'électorat du Rassemblement National ? Est-ce qu'il a beaucoup changé ?
Ce que je voudrais dire déjà, c'est qu'en 10 ans, les changements ne sont pas intervenus uniquement auprès de l'électorat du Rassemblement National. On a eu un bouleversement général, je dirais, au plan politique. Ce livre trace aussi 10 années de bouleversement tout court. Nous avons connu, évidemment, les attentats, il y a eu la crise des Gilets jaunes, la crise du Covid, l'effondrement des deux grands partis qui ont dirigé la Ve République depuis 1958, le Parti Socialiste et LR. Donc évidemment, aujourd'hui, on a une configuration qui est complètement nouvelle. Et effectivement, il y a eu un grand bouleversement de l'électorat du RN qui s'est, d'une certaine manière, élargi, d'une certaine manière aussi normalisé au plan sociologique. Moi, quand j'ai commencé ce projet en 2014, j'ai travaillé principalement dans des villes gérées par le Front National.
Voilà, Hénin-Beaumont, Beaucaire et Hayange.
Moselle, donc principalement dans les territoires désindustrialisés.
Ou même,
y compris dans ces départements, l'électorat frontiste de l'époque était finalement assez limité aux communes les plus en difficulté. On avait quand même un paysage assez clair. Si je prends par exemple le cas du Gard, puisque je suis allé à Beaucaire, à l'époque, dans le Gard, le vote Front National était principalement concentré dans la petite Camargue, la vallée du Rhône, dans les villes assez pauvres, assez rurales également. Et aujourd'hui, c'est complètement élargi à l'ensemble du département, et notamment la couronne nîmoise, qui loge plutôt des populations issues des classes moyennes.
Mais qui sont les électeurs du Rassemblement National, du coup, que vous avez vu très très près? C'est-à-dire, quelle est leur vie? Quelles sont leurs peurs? Qu'est-ce qu'ils espèrent?
Alors moi, ce que j'ai voulu, c'est passer du temps avec ces électeurs. C'est pas
avec
du...
certains, vous avez même sympathisé. Hein,
ça, oui, bien ça sûr, c'est pas du tout du micro-trottoir. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était de documenter leur vie, que ce soit au travail, dans leurs loisirs, dans leur sociabilité aussi. J'ai vu, moi, des personnes qui avaient un sentiment de... finalement, de souffrance dans la société telle qu'elle s'est développée depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'on est quand même passé d'une société de production où on avait une fierté, on gagnait une certaine fierté grâce au travail qui, finalement, s'est peu à peu perdu. Et l'une des forces, à mon sens, du Rassemblement National de Marine Le Pen, c'est d'avoir redonné cette fierté à une partie du peuple français par, d'une certaine manière, une façon de penser des blessures narcissiques.
Mais du coup, vous parlez de la France des invisibles, et on a le sentiment que l'électorat du Rassemblement National n'est plus seulement cette France des invisibles.
Mais il s'est élargi, c'est-à-dire que quand globalement, c'est le salariat. C'est-à-dire que quand on regarde d'ailleurs les études d'opinion, le RN est fort chez les salariés de 18 à 60 ans. Il s'affaiblit un petit peu chez les retraités, bien que c'est en train d'évoluer sur la période très très récente, mais effectivement, et avec quand même un point commun, c'est que l'on retrouve principalement des électeurs qui vont avoir un niveau d'études supérieur relativement inférieur aux autres tranches électorales. Donc ça, c'est quand même un facteur majeur. C'est-à-dire qu'il y a eu un développement dans notre société, dans l'évolution du monde du travail, et des changements qui ont opéré avec les diplômes, avec la diplomisation de la société, qui ont eu un impact aussi extrêmement important, un sentiment finalement de dépossession lié au fait qu'on ne puisse pas progresser par son travail et que l'on soit finalement bloqué parce qu'on n'a pas pu forcément, on n'a pas eu la possibilité de faire des études supérieures.
Alix.
Est-ce que vous avez eu le sentiment, puisque vous vous êtes posé quand même sur une dizaine d'années, que l'exclusion, en tout cas la prise de distance, puis l'exclusion du FN à l'époque de Jean-Marie Le Pen par Marine Le Pen a permis justement d'élargir aussi son électorat?
Oui, alors ce processus de dédiabolisation du Rassemblement National...
Vous dites même normalisation hein, dans votre...
Je dis dédiabolisation puis normalisation, parce que finalement le processus de dédiabolisation, si on regarde bien les choses, il a commencé dès les années 2000, avant que Marine Le Pen soit présidente du Front National, avant 2011. Il est assez concomitant d'ailleurs avec son arrivée à Hénin-Beaumont. Ça, j'en parle dans le livre, où on passe de Marine de Saint-Cloud à Marine d'Hénin, y compris avec des changements dans la forme. Donc il y a vraiment une stratégie qui est pensée à ce moment-là. Et ce que j'ai pu constater dans mon travail, c'est effectivement souvent cette phrase qui revenait, Marine, c'est pas le père. Voilà, et finalement, là, le décès de Jean-Marie Le Pen, il y a...
Fini de tourner une page, là, c'est ça?
On tourne une page définitive, bon, qui était quand même déjà bien amorcée. Mais c'est vrai qu'il y a cette distinction qui est extrêmement forte.
Et un travail auprès des femmes aussi.
Alors c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, il y a beaucoup plus de femmes, et puis il y a même quelques cadres aujourd'hui qui votent pour le Rassemblement National.
Façon,
ça, dans votre livre, vous n'en parlez pas beaucoup.
On a un électorat qui est beaucoup plus hétérogène, bien évidemment, mais vous avez quand même une masse, quand vous regardez les études, qui principalement se concentre sur les classes populaires, chez les ouvriers, chez les employés. Chez les femmes, oui, j'en parle beaucoup dans le livre. C'est d'ailleurs une des grandes différences avec l'électorat trumpiste aux États-Unis, hein, qui est extrêmement genré. C'est vrai qu'on a une majorité de femmes qui votent pour Marine Le Pen. Je parlais de cette figure protectrice, elle est perçue comme celle qui va protéger.
Et puis elle a fait tout un travail auprès des femmes, notamment dans les circonstances de famille monoparentale.
Alors, tout à fait, moi j'ai sorti un livre qui s'appelle Les femmes du lien, qui est un livre où j'ai suivi des travailleuses, des auxiliaires de vie, hein, d'ailleurs d'origine africaine, souvent, comme française, qui d'ailleurs ont exactement les mêmes préoccupations, rencontrent les mêmes problématiques, ne sont pas sous-payées par rapport aux aides à domicile françaises, hein, que, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas, je dirais, ce ne sont pas elles qui font baisser les salaires, mais le fait est que, effectivement, chez les aides à domicile, qui sont quand même très nombreuses en France, dans la France périphérique, moi j'ai rencontré des aides à domicile, des assistantes maternelles, des aides-soignantes qui très majoritairement, souvent, votent pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella.
Et vous écrivez aussi, et moi ça m'a frappé, pour expliquer la fascination en quelque sorte de Marine Le Pen, de certains électeurs, à leurs yeux, Marine Le Pen est une femme qui a réussi à s'imposer dans un milieu dominé par les hommes.
Oui. Alors ça,
vous
c'est...
avez 30 secondes.
Oui, j'ai 30 secondes. Bah, c'est vrai que c'est la... Quelque part, elle incarne l'image d'une femme forte, voilà, vis-à-vis de d'autres femmes, et c'est l'une de ses forces, je crois.
Merci à tous les deux. Je suis désolée, on n'a plus le temps. Fabrice Légéré, vous avez discuté tellement longtemps, vous en avez dit plein de choses. Je rappelle le titre, pour commencer, de votre ouvrage, Vincent Jarousseau, Dans les âmes, donc, et dans les urnes, sorti aux éditions Les Arènes. Merci, et pardonnez-moi de ne pas avoir réussi à vous redonner la parole, Fabrice Légéré. Un grand merci à toute l'équipe de Questions politiques, Fabienne Lemoyle à la rédaction en chef, à Maury Baucher à la programmation de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, excellent fin de week-end.